simplement oral. C'est-à-dire qu'on peut arriver à le prendre sur Internet, mais uniquement par oral. Donc ceux qui ont une très bonne mémoire, ça permet de retenir par cœur l'évangile de la Peshitta, c'est-à-dire de la version araméenne. Mais c'est pas facile à travailler. C'est pour ça que moi j'ai pris une année pour essayer de le travailler, de l'ordonner maintenant d'une manière plus simple. Théoriquement, celui qui a fait les enregistrements, qui est quelqu'un lié à l'Emmanuel, a dit qu'il ferait un CD-ROM après un DVD, mais je ne sais pas s'il arrivera à le faire. Voilà, alors maintenant je commence le deuxième, et c'est pas un collier, car il y a un collier, et sur ce collier se greffent des pendentifs. Mesdames, hein, y a des pendentifs comme ça qui vous permettent de paraître belle. Je dis paraître parce que Jean Chrysostome, un jour à la messe, il y a l'évêque d'Antioche, il y a une dame qui est venue se plaindre qu'on lui avait volé un bijou. Et Chrysostome m'a répondu, mais qu'est-ce que tu avais à venir à l'église avec des bijoux? Tu es pas assez belle comme ça? Voilà. Je n'irai pas vous dire tout ce qu'il a dit sur les femmes qui se ravalent les façades, mais ça, c'était... Il a une expression terrible. Hein. Il y avait des dames... Qu'est-ce que vous avez besoin de ravaler vos façades? C'est le verbe grec pour paraître plus belle que vous n'êtes. Alors, excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi c'est venu. Sur les pendentifs, oui. Voilà. Alors... ce pendentif-là, vous allez voir que c'est quelque chose qui nous permet de découvrir comment, à l'époque de Jésus, eh bien, il y a des tas de choses qui se sont mises en place et que c'était pas évident du tout. Alors, la première perle de ce pendentif, c'est un feu sur la terre. C'est Luc 12, 49, 50, deux petits versets. Alors je vous les lis. C'est un feu que je suis venu mettre sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà brûlant. C'est un baptême dans lequel j'ai à être plongé, et grande est mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit pleinement accompli. Alors ces deux paroles de Jésus, elles sont d'une richesse inouïe car elles nous livrent en quelque sorte le cœur de Jésus. C'est vraiment un feu qu'il est venu mettre sur la terre. Et là, le verbe employé, c'est un verbe qui se comprend très bien en Provence. En Provence, parfois, il y a, vous avez un incendie qui commence, et puis sans qu'on sache pourquoi, vous avez tout un pan de forêt qui s'embrase d'un seul coup. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'essence inflammable que tout d'un coup, ça s'embrase. Et on a même l'impression au début que ça s'embrase sans brûler les arbres. Alors, en réalité, derrière ce verbe-là, à quoi Jésus pense-t-il ? C'est un feu que je suis venu mettre sur la terre. Mais pas du tout un feu qui va détruire. Un feu qui brûle sans détruire. Alors ça vous fait penser à quoi ? Réveillez-vous un peu ! Le buisson ardent, bien sûr. C'est-à-dire que Jésus, il veut vraiment embraser les cœurs sans les détruire aucunement. Un embrasement d'amour. Et c'est ça la mission de Jésus. C'est de nous embraser en nous prenant complètement à l'intérieur de son amour. Et... Il y a vraiment ce feu, cette passion d'amour qu'il veut allumer dans tous nos cœurs. Et Jésus aimait, on le voit bien dans la miséricorde, hein, Jésus aimait des effluves d'amour pour embraser le cœur de tous. Et quand quelqu'un reconnaît Jésus comme celui qui l'attend, eh bien son cœur s'embrase à son tour et rayonne. Et là, moi, je pense à une vieille dame d'Aix-en-Provence, qui était un peu ma grand-mère par adoption, et elle est morte maintenant. C'était une femme extraordinaire. Et elle était embrasée d'amour, et un jour, elle avait 95 ans, je la vois à quatre pattes dans son four quand j'arrive chez elle. Et je lui dis, mais vous avez pas mal, vous avez pas... Moi, elle me dit, il y a bien longtemps que j'y pense plus à tout ça. Mais je sais que t'aimes les tartes, alors je t'ai fait une bonne tarte aux pommes. Et ben, mais sa joie, elle était, alors elle souffrait, mais elle y pensait pas. Et elle avait trouvé que sa mission, c'était d'être la poubelle du bon Dieu. C'est-à-dire que elle accueillait les gens lui racontaient toutes leurs histoires, etc. Elle mettait tout dans la poubelle du bon Dieu, et quand la poubelle était pleine, elle venait la vider aux pieds de Jésus. Et en échange, elle embrasait le cœur des gens. Et elle avait toujours une énorme loupe autour de son cou, parce que elle regardait n'importe quoi, puis elle s'émerveillait. Alors elle m'a même dit un jour, maintenant je peux plus finir à Notre Père. Ça fait des années que j'arrive plus jusqu'à la fin. Parce que Notre Père, et puis hop, elle part, elle s'en va se promener autour de l'idée de paternité, elle me dit, j'arrive plus à finir. Mais on sentait une personne totalement embrasée, et la dernière lettre qu'elle m'a écrite à la machine à écrire, elle écrivait ceci, il y avait plein de fautes, mais ça fait rien, « Mes yeux se ferment, mais ça n'a plus d'importance, car ils s'ouvriront le jour où ça vaudra la peine de voir. » Mais c'est extraordinaire, ça. Voilà, ben moi, je souhaite ça pour vous tous. Alors Jésus, il veut vraiment embraser nos cœurs. Et il brûle lui-même du désir d'embraser le cœur de tous. Et ensuite, il va dire, c'est un baptême dans lequel je dois être plongé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Eh bien, ça veut dire qu'il veut être, plongé dans la misère humaine la plus profonde. Lui, le tout pur, voilà qu'il plonge dans la misère humaine, et c'est vraiment tout le sens de l'incarnation rédemptrice. Un plongeon du Verbe dans la misère humaine. Un baptême de sang pour arriver à une véritable consanguinité avec nous tous. Nous sommes tous des pécheurs, mais désormais, nous avons le même sang avec le Christ, parce qu'il nous donne de communier à son corps et à son sang. Vous savez, les amoureux, je ne sais pas s'ils le font encore maintenant, mais autrefois, on s'amusait à faire couler une goutte de sang et puis à mélanger nos sangs. Eh bien, le Christ, il est venu pour qu'il y ait une consanguinité entre lui et nous. Désormais, je vibre au rythme de Jésus lui-même. C'est là où nous, on a un mal fou à réaliser que par sa mort sur la croix, on est délivré de tout le mal, mais à une condition que désormais on vive dans le Christ. Il n'y a pas de vie possible sinon dans le Christ. Et je sais que souvent je me promène rue de la République le samedi, quand parfois je vais du côté de Saint-Agricole, et je suis étonné, je me dis, mais tous ces gens qui se promènent, ben c'est des morts vivants. Ils sont plus morts que vivants. Est-ce qu'ils vivent en Christ? Et là, on sent notre responsabilité à nous tous. Moi, je fais de l'évangélisation avec ma croix. Parce qu'il y a les jeunes maghrébines, le samedi après-midi, rue de la République, qui m'arrêtent en me disant, c'est quoi ton truc? Moi, je leur dis, c'est la croix de Jésus. Alors, et puis, je fais une petite catéchèse. Après, elle me dit, qui c'est qui t'a donné ça? Ben, je dis, c'est le pape Benoît. C'est qui ce mec-là? Et puis, on commence à parler ensemble. Et après ça, avant j'en avais une dorée. Elle me dit, c'est en or? Et moi je réponds, non, tu me l'aurais déjà volée si c'était ça. Et on éclate tous de rire et puis on se sépare. Mais c'est là où il faut être. L'évangélisation, c'est pas réservé aux curés ou aux évêques, c'est réservé à tout le monde. Et là, moi je pense que le drame de notre église aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réalisé que par la grâce baptismale, on doit être des disciples missionnaires de Jésus. Alors je vous signale pour tous ceux qui habitent Avignon que les conférences de carême cette année tourneront tout autour du thème « Devenir disciples missionnaires dans nos vies de baptisés ». Alors Jésus, il va être plongé un baptême de sang pour qu'on ait une véritable consanguinité avec lui. Et on sent sa souffrance dans le texte lorsqu'il dit « Grande est mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit pleinement accompli ». Et son angoisse, c'est quoi? C'est pas par rapport à lui, c'est pas par rapport à la croix, car il est prêt à donner sa vie, mais son angoisse, c'est de savoir si tous les pécheurs vont accepter son amour, vont accepter cette consanguinité. Et là, les verbes employés en araméen, qui sont toujours très concrets, son angoisse, c'est un peu imaginer l'angoisse d'un père de famille qui a 6 enfants tout petits et il doit leur faire traverser un ruisseau qui coule tellement fort qu'il a peur qu'il y en ait un qui ne réussisse pas à passer de l'autre côté. Et c'est ça son angoisse, l'angoisse de Jésus. C'est pas la souffrance qu'il va avoir, c'est au contraire, est-ce que par ma mort sur la croix, je réussirai à attirer tous les hommes à moi? Voilà, ça c'est vraiment, alors c'est une invitation pour nous tous à accueillir l'amour embrasant de Dieu. L'adoration du Saint-Sacrement, moi je dis tout simplement, l'été, les Français, ils vont se faire bronzer sur les plages. Non? Bon. Eh ben, moi, je me fais bronzer au soleil de l'amour divin. Si on est en hiver, quand on a froid, on se réchauffe sur un radiateur. Eh bien, moi, je me réchauffe au feu de l'amour divin. Et il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Suffit, je suis là. Et puis le feu de l'amour divin, ben il me réchauffe, puis c'est tout. Les amoureux, ils sont pas toujours en train de se baratiner l'un l'autre, non? Eh bien nous, il faut qu'on soit là, simplement dans la joie d'être là avec lui. Et faites l'expérience, vous verrez que ça transfigure nos vies de accueillir cet amour brûlant de Jésus en nous. Et également, partageons l'angoisse de Jésus de voir tous les hommes venir partager le festin des noces de l'agneau. Et moi, je vous avoue que l'autre jour, j'ai pu, avec l'évêque syriaque, célébrer la messe dans l'église de l'Immaculée Conception qui a été complètement ravagée par le passage de Daesh. Eh ben, c'est vraiment, on sent, quand on célèbre comme ça au cœur d'une église défigurée, on sent l'angoisse pour que tous les hommes, même les hommes de Daesh, même ceux qui tuent, ils puissent accueillir un jour l'amour de Jésus. Et ça, si vous brûlez pas de l'amour de Jésus, eh bien, vous passez à côté de l'essentiel. Et normalement, vous avez une famille humaine, vous y êtes attaché, mais normalement vous devriez être aussi bien attaché à la grande famille humaine du corps du Christ. Mais souvent le corps du Christ, on s'en fout. Excusez-moi l'expression. Mais à la sortie de la messe, on voit les gens qui fichent le camp comme si, ben maintenant, ou alors on dit bonjour aux gens qu'on connaît, mais les autres, on est membres du corps du Christ les uns les autres. Et quand le pape François, il nous rabâche qu'il faut sortir pour aller aux périphéries, mais Benoît XVI, il disait aux prêtres, surtout ne jetez pas le filet par les fenêtres de votre église, ça tombera dans la rue à côté. Il faut aller au large. Mais vous les premiers. Et il faut que on sente que dans les prières universelles, d'abord, évitez tous d'utiliser « Prions en Église » pour une prière universelle du dimanche. La prière universelle, c'est la prière de la communauté que vous formez. Et c'est toutes les intentions qui sont remontées de la communauté. C'est pas le truc qu'un type a écrit deux mois avant pour « Prions en Église ». Non, ça doit être l'expression de la souffrance, de l'angoisse d'une communauté chrétienne devant la mission qui est la sienne. Voilà, ça c'est la première perle. Vous voyez, c'est très concret, hein, on voit que ça peut nous toucher absolument de près. Alors maintenant, on va avoir deux perles pratiquement identiques dans leur structure. Mais en même temps, vous allez voir que c'est toujours d'actualité. Alors, la deuxième perle, la violence. Il y a trois petits versets. Alors, ce qui est amusant dans ce pendentif, c'est que j'ai pas pu le représenter parce que il aurait fallu travailler davantage avec celui qui fait ça chez nous. J'ai pas eu le temps. Mais normalement, il y a deux versets, trois versets, un peu plus, et la grosse perle à la fin. Un pendentif qui va grandissant. Alors je vous lis la deuxième perle. « Il advint en ce temps-là que des gens vinrent lui parler des Galiléens, ceux dont Pilate avait fait couler le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus répondit et leur dit, « Pensez-vous que ceux-ci, ces Galiléens, soient plus pécheurs que tous les autres Galiléens pour subir un tel sort ? Non. » Je le dis pour vous et pour vous tous aussi. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez pareillement. Ben, on en prend tous pour son grade, hein. Non, je le dis pour vous et pour vous tous aussi. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Alors, cette perle, elle est composée d'une manière très simple, une introduction débouchant sur une question et une réponse de Jésus en deux parties. Il reformule la question sous une forme plus exigeante sur la culpabilité de chacun en Israël et une exhortation à se convertir avec au centre un non clair. Non, si vous vous convertissez pas, vous et vous tous, vous périrez pareillement. Alors, de quoi il s'agissait ? Il s'agissait que les pharisiens, ils poussaient des Galiléens zélotes à faire des attentats un peu partout, et puis après, ils se mettaient du côté de Pilate et des autorités romaines qui laissaient tout à fait exécuter ceux qui avaient commis la violence en Galilée. Alors, en réalité, on est en présence de cette violence qui se déchaîne et qui se déchaîne partout, hein. Alors, nous sommes à Jérusalem. Il semble même que nous sommes au Yom Kippour de l'année 28. Parce que vous allez voir que ce pendentif, il va nous permettre de découvrir quelque chose que habituellement on ne voit pas du tout. Alors les gens interrogent Jésus sur les Galiléens zélotes, des activistes hébreux, les djihadistes avant l'heure, nationalistes organisant des attentats et des meurtres. Et les soldats romains se sont vengés en les tuant au moment où ils s'apprêtaient à offrir un sacrifice dans le temple. Et la réponse de Jésus, on lui demande son avis sur l'approbation ou le refus de la violence dans une lutte politique. Il répond d'abord sous forme d'une question de morale religieuse en politique, puisque c'est le prétexte des zélotes. Et à cette question, il répond par un non. Et en araméen, c'est « là » qui claque et donne la réponse à la question. La violence n'est jamais une solution à aucun problème. Et ça, on voit bien que dans le cœur de notre humanité pécheresse, on a tous de la violence dans le cœur, non ? Dans les couples, moi je participe régulièrement à une communauté du chemin néo-catéchuménal, mais moi ça m'amuse de voir que quand on fait un partage de vie, eh bien les couples ils arrêtent pas à s'envoyer des pics, mon mari il est insupportable, ma femme j'arrive plus à la supporter, et puis après ça les petites jeunes et les petits jeunes ils ont qu'une envie, c'est de se marier. Alors moi je me dis, mais à entendre ce qu'ils vivent, leurs parents, ils devraient réfléchir avant de se marier, hein, mais non, ben ça c'est la vie. Mais je ferme la parenthèse. Hein. Vraiment, la violence n'est jamais une solution. La solution, c'est la conversion. Il faut se convertir. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Ben voilà, le programme, il est très clair, très simple, il faut se convertir. Non ? Voilà, alors mesdames et messieurs, hein, après il faut aller à la chapelle pour dire à l'Esprit Saint, à toi de jouer. Alors entre parenthèses, le père Marie-Eugène, il aimait dire que on a avec nous l'Esprit Saint et la Sainte Vierge. Tout le reste, c'est des aléas de l'histoire. Ça veut dire que si on est ancré dans l'Esprit Saint et la Vierge Marie, alors tout ira bien. Alors on va passer maintenant à l'orgueil écrasé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Attendez, je me mélange un peu dans mes feuilles. C'est pas grave. L'orgueil écrasé. Deux petits versets. Où c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Parce que les gens de Jérusalem, ils en avaient assez de voir les Romains construire des tours qui dominaient le temple, la cour du temple, pour voir ce qui s'y passait. Ils ont voulu construire une tour, la tour de Siloé. Et puis, crac, tout est tombé et il y a eu 18 morts. Pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que tous les hommes demeurant à Jérusalem ? Et la réponse, non, là, je vous le dis à vous, car si vous ne vous convertissez pas, vous tous vous périrez pareillement. Ben oui, c'est l'orgueil. C'est vraiment le chien dent en nous. C'est vraiment une sorte de chien dent et il faut vraiment demander au Seigneur la grâce de l'éradiquer. Et là, il y a une conversion radicale. Oh, on est tous prêts à dire je suis le dernier des derniers, mais à condition que ce soit moi qui le dise. Mais si c'est mon voisin qui me dit t'es nul, t'es alors là, mais de quoi tu te mêles? C'est l'orgueil, c'est quelque chose de terrible, terrible. Et ça, je pense que c'est un des péchés qui disparaîtra une demi-heure après notre mort. Parce que c'est tellement ancré que ça disparaîtra pas facilement. Alors, je m'arrête. C'est vraiment la même composition que la violence et l'orgueil. En réalité, c'est deux des péchés qui habitent le cœur de tous les hommes. Et la violence qui est en nous, c'est vraiment deux réalités dont il faut demander à l'Esprit Saint qu'il nous libère. Et ça peut être que son œuvre à lui. Et vous voyez pourquoi Jésus, il avait de l'angoisse dans le cœur, parce que sa mission, c'est de libérer de la violence et de l'orgueil le cœur des hommes. Ben, il a du travail, hein. Et c'est pas fini, hein. De génération en génération, c'est reparti pour un tour. Voilà, ça c'est la troisième perle. La quatrième, on revient du côté de Dieu, c'est la patience. Alors, il leur dit une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Alors ça, c'était une habitude. Les gens avaient des vignes en Terre Sainte, bien sûr. Et dans leur vigne, il y avait toujours un gros figuier. Pourquoi ? Parce que ça permettait de se mettre à son ombre pour se reposer un peu. C'était le lieu de repos des vignerons. Quand ils avaient travaillé, qu'ils étaient bien en sueur, et ben, ils venaient boire de l'eau fraîche sous le figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher des fruits, et il n'en trouva pas. Et il dit à l'ouvrier, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits dans ce figuier, celui-là, et moi, je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre ? » L'ouvrier lui dit, « Mon maître, laisse-le encore cette année-ci. Je vais travailler la terre, y mettre du fumier, et peut-être fera-t-il des fruits. Et s'il n'en fait pas, l'année d'après, coupe-le à ras. » Alors là, c'est intéressant d'essayer d'entrer dans la profondeur de ce texte. Bon, il y a un figuier dans tous les coins d'une vigne, et sous son ombre, rien ne pousse. Le figuier, il laisse pas pousser quoi que ce soit en dessous de lui. Et là, il faut donc qu'il porte des fruits, parce que s'il use la terre en vain, ben, c'est pas la peine de le garder. De plus, il est le symbole de la sagesse, le symbole des élites, qui devrait enseigner la sagesse. Mais parfois, il devient un figuier aux fruits fades. On l'a vu avec Zachée. Et le propriétaire, quand il vient et qu'il trouve pas de fruits, ben, il dit à son ouvrier agricole, et là, Jésus, quand il va parler, il pense à Israël, que le figuier était le symbole d'Israël. Voilà 3 ans que moi, Jésus, je viens chercher du fruit, mais Israël n'en porte pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre ? C'est le drame d'Israël. Il ne porte pas de fruit. Mais entre parenthèses, est-ce que ça ne serait pas notre drame à nous, Église de France ? Parce que parfois, ça m'arrive de me demander... Quelle est la place de l'islam dans le plan de Dieu sur l'Église de France et l'Église d'Europe ? Et l'autre jour, je parlais de ça avec quelqu'un qui me dit, mais est-ce qu'on pourrait pas penser à Nabucodonosor qui a envahi la Terre Sainte, qui a tout détruit, tout simplement pour amener la conversion du petit reste d'Israël ? Et notre Église, c'est un petit reste. Mais il faut qu'on se convertisse. Si on se convertit pas, eh bien c'est. Alors le Seigneur, est-ce que c'est ça ? Je ne m'en porte pas garant, hein. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très profond là, parce que l'islam, il entre dans le plan de Dieu. Dieu, il a un projet pour l'islam et sa place dans le projet divin. Et ben, il faut peut-être s'interroger. Mais l'ouvrier insiste, laisse-le, pardonne encore, je vais travailler la terre, c'est le temps des soins intensifs. Et on peut peut-être même interpréter ce texte, Jésus, il en est à sa deuxième année de mission. Et quand il dit, laisse-le encore une année, je vais y mettre du fumier, etc., peut-être va-t-il porter du fruit l'année prochaine. Sinon, tu l'enlèveras. Mais on sent là l'implication de la mission de Jésus par rapport au figuier Israël. Il reste un an de vie publique à Jésus avant sa passion. Et rappelez-vous qu'au début de la passion, Jésus va passer devant un figuier, il n'y trouve pas de fruits, et il va dire au figuier, désormais tu ne porteras plus de fruits. Et le lendemain matin, il repasse et le figuier est totalement desséché. Et oui, mais là, il veut lui laisser une dernière chance, c'est la patience de Dieu. Mais nous aussi, Jésus, il doit se dire, mais quand même, l'archevêque d'Avignon, il n'arrête pas, il a pas encore fini de se convertir. Ben, je vais essayer de mettre un peu de fumier, l'année prochaine, ça apportera peut-être des fruits. Et ça, il le pense de chacun de nous. Alors, attention à la patience de Dieu, mais la leçon, c'est que la miséricorde de Dieu est patience. Ah, si, ça marche. Il faut méditer tout simplement cette parabole. Toute civilisation portée par la parole de Dieu s'appauvrit à terme si elle renonce au travail de méditation sur la source de toute lumière et de toute vie. Demain dans l'évangile, Jésus nous dira « Vous êtes la lumière du monde ». Mais attention, n'allez pas croire que vous êtes des lumières, ni les uns ni les autres. Non, ben la lumière, c'est le Christ, c'est pas nous. Et si nous cessons de nous abreuver à la parole et aux gestes du Verbe de Dieu, eh bien, pour chercher souvent ailleurs une rationalité, eh bien, tout est fichu. Voilà, ça c'est une perle importante pour réfléchir à la manière dont chacun de nous se comporte aujourd'hui. Alors maintenant, j'en arrive à la dernière perle qui, elle, est beaucoup plus importante. Et je vous lis le texte. Alors que Jésus enseignait au cours d'une assemblée du Shabbat, il y avait là une femme qui souffrait d'un souffle d'infirmité depuis 18 ans. Et elle était toute courbée, elle ne pouvait plus du tout se redresser. Dans la vie, ça arrive qu'on voit des gens qui sont complètement... Je ne sais pas comment c'est... Il paraît que c'est de l'arthrose, je ne sais pas quoi, mais bon. Elle ne pouvait plus du tout se redresser. Alors Jésus la vit et il l'appela et lui dit, « Femme, tu es déliée de ton infirmité. » Il posa sa main sur elle et aussitôt elle se redressa. Et qu'est-ce qu'elle fait spontanément ? Elle rendit gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue s'exclama en s'emportant contre Jésus et cette guérison un jour de Shabbat. Il dit à l'assemblée, « Il y a 6 jours faits pour travailler, pour vous soigner. Ces jours-là, venez pour être soignés. Mais le jour du Shabbat, vous ne le devez pas. » Alors Jésus lui répondit et lui dit, « Imposteur, l'un ou l'autre d'entre vous, le jour du Shabbat, ne délie-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire et ne va-t-il pas le faire boire ? Et alors celle-ci, une femme, fille d'Abraham, et qui était prisonnière de la morsure de Satan depuis 18 ans, ne devait-elle pas être délivrée de ce lien un jour du Shabbat ? Et quand il lui dit ces paroles, la honte gagna tous ceux qui s'étaient dressés contre lui, et le peuple entier était unanime sur toutes les merveilles faites par sa main. Alors on va essayer maintenant d'entrer un peu dans l'intelligence de ces quelques versets. Alors, la scène se passe dans une synagogue le jour du Shabbat. Il y a là une femme atteinte d'un souffle d'infirmité. Alors, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque un souffle d'infirmité ? C'est-à-dire que on a en nous un souffle vital, mais parfois il y a un souffle de maladie qui essaye de lutter contre notre souffle vital. Et en fait, c'était un terme médical très précis. Hein, ce souffle d'infirmité correspondait à une arthrose invalidante et s'est installée depuis combien de temps ? 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ce 18 ans ? Voilà c'est ça qui va nous mettre sur la piste de quelque chose d'extrêmement important. Et là, Jésus intervient, femme, tu es déliée de ton infirmité. Et elle est déliée comme d'un péché. Et il va établir le contact avec elle. Il s'approche pour la toucher. Toujours le verbe QRB. Et elle se redresse. Elle rend gloire à Dieu. Immédiatement redressée. Parce que pour louer le Seigneur, ben, il faut lever les mains au ciel et il faut louer le Seigneur en nous tournant vers lui. Eh bien, recroquevillée sur la terre, elle était devenue incapable de louer le Seigneur. Et je vous rappelle que la première chose que font les chrétiens qui sortent du cénacle le matin de la Pentecôte, ils commencent, nous les entendons tous, je cite les Actes des Apôtres, nous les entendons tous dans nos langues proclamer les merveilles de Dieu. Et ça, c'est vraiment la première chose que l'homme fait lorsqu'il accueille l'Esprit. Et là, le souffle de la femme a repris son emprise sur son corps et sa vie. Et la roue, c'est un des noms de l'Esprit Saint. Car Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a fait le corps avec de la glaise, c'est une image bien sûr, et il lui a insufflé un souffle de vie, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est venu donner vie à l'homme. Et l'homme, il a besoin de l'Esprit Saint pour vivre. C'est un souffle vital pour l'homme et pour tout homme. C'est pourquoi dans le diocèse, on va l'année prochaine essayer d'obéir à Jean-Paul II qui avait demandé à ce que la confirmation soit donnée à l'âge de raison. Et dans le code de droit canonique, on lui avait montré le projet, et concernant l'âge de la confirmation, il avait tiré un trait rageur sur la page, et il avait marqué cette question, je me la réserve. C'était le pape, il avait le droit. Et dans le texte qui est sorti, c'est l'âge normal de la confirmation, c'est l'âge de raison. Et le 19 décembre 1999, la Congrégation pour le culte divin a fait une note en disant « On ne comprend pas, ça reste incompréhensible de voir comment dans beaucoup d'églises on continue à donner la confirmation à 17, 16 ans, 17, 18 ans, alors qu'on sait tous que la présence de l'Esprit Saint est vitale pour être chrétien. » Alors voilà, donc l'année prochaine, ça va être un peu une révolution, mais je pense que c'est extrêmement important de redonner sa place à l'Esprit Saint. Et un jour à Carpentras, j'avais fait une leçon avec les enfants de CE2 sur l'Esprit Saint. Les catéchistes m'avaient dit « qu'est-ce que vous voulez faire une leçon sur l'Esprit Saint ? Ils sont incapables de comprendre ». Et moi, je me suis tourné vers les catéchistes et dit « Et vous, vous comprenez ?» Bon. Et ça a arrêté. Et on avait caché une caméra dans le plafond parce qu'on voulait voir un peu comment ça allait se passer. Et on était tous assis sur des tabourets. Puis j'avais dit aux enfants, on se donne la main. Et puis si on a quelque chose à dire, ben on parle. Si on n'a rien à dire, on serre la main du voisin pour lui passer la parole. Et sur la caméra, on a vu que pendant 5 minutes, la parole était passée de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et moi, je commençais à dire à l'Esprit Saint, il faudrait un peu que tu te remues parce que on va pas arriver à un match nul là. Alors, à un moment donné, on a vu une tête d'enfant s'illuminer et il a dit, je sais plus les mots exacts, mais ça revenait à dire. L'Esprit Saint, je sais pas qui c'est, mais il est là. Et cet enfant, il faisait l'expérience de la présence de l'Esprit en lui. Et je vous promets que son visage, ça le montrait. Alors voilà. Et la réaction du chef de la synagogue, alors entre parenthèses, si on l'appelle un chef de synagogue, c'est qu'il s'agissait d'un laïc. Parce qu'à un moment donné, il y avait plus suffisamment de lévites ou de prêtres, et c'est un laïc qui animait la liturgie de la synagogue. Et il s'emporte, et il trouve la faille en disant, il y a 6 jours dans la semaine pour vous faire soigner, venez ces jours-là, mais venez pas le jour du Shabbat. Et il reproche à Jésus, non pas d'avoir guéri cette femme, mais d'avoir fait un acte médical le jour du Shabbat où on n'a pas le droit de travailler. Et Jésus recentre le débat. Imposteur. Tout le monde, le jour du Shabbat, il délie leurs animaux pour les faire boire. Encore qu'aujourd'hui, en Israël, les juifs pieux, c'est amusant, ils ont des ascenseurs qui s'arrêtent à tous les étages. Parce qu'appuyer sur un bouton, c'est un travail. Donc normalement, le jour du Shabbat, il y a un principe, on appuie sur un bouton le vendredi et avant le Shabbat, et pendant tout le temps du Shabbat, l'ascenseur, il va monter un niveau, un niveau, un niveau, puis en haut, il va redescendre un niveau, un niveau, un niveau. Il ne faut pas toucher au bouton. Mais ça, c'est le légalisme juif. Mais nous, entre parenthèses, on sait aussi ce que c'est. Et Jésus va recentrer le débat. Cette fille d'Abraham, prisonnière de la morsure de Satan, depuis 18 ans, de pouvoir pharisien. C'est là où les 18 ans m'intéressent. Parce que Jésus, il a à peu près aux alentours de 30 ans, 31 ans, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il a fait quand il avait 12 ans? Il était dans le temple. Et qui était le grand prêtre à cette époque-là? Non, Melchisedec, ça c'est au début de la Bible. Il y a des milliers d'années. En fait, c'était probablement Hillel. Et Hillel, le grand prêtre, c'était un homme défenseur d'une religion de miséricorde. Et probablement qu'il a participé aussi à la formation de Paul, défenseur d'une religion tout en miséricorde et fondée sur une relation personnelle avec Dieu. Et voilà qu'à sa mort, celui qui va le remplacer, c'est Shammai. Et Shammai, lui, c'est un légaliste rigoureux qui est à la source du pharisaïsme. Et donc, en fait, quand il dit cette femme, elle est prisonnière d'un souffle d'infirmité depuis 18 ans, en fait, il attaque les pharisiens. Il attaque ce courant pharisien qui a pris le pouvoir sur une religion de miséricorde et de relation personnelle avec Dieu. Mais entre parenthèses, est-ce que dans nos paroisses, on est vraiment dans une religion de miséricorde et dans une religion de relation personnelle avec Dieu? On peut s'interroger, hein? Car le pharisaïsme... Et en fait, c'est bien une œuvre de miséricorde que Jésus est venu accomplir au milieu de son peuple. Alors vous voyez ce qui est intéressant dans la version araméenne, c'est que on est beaucoup plus proche de la vie concrète à cette époque-là. Et que cette vie, c'est la même aujourd'hui pour nous. Et on vit les mêmes contradictions dans nos propres vies. Combien de fois on est pharisien? Eh oui. Combien de fois on manque de miséricorde? Combien de fois on s'engueule entre nous, entre chrétiens, etc., pour des choses qui n'en valent pas là, une chandelle. Alors, vous voyez, dans ce pendentif, Jésus nous rappelle l'amour qu'il veut, qui jaillit de son cœur et qui va embraser le monde sans le détruire. Et puis, il écarte la violence et l'orgueil en nous disant « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez pareillement à tous ceux qui ont péri. » Ensuite, il nous montre la patience de Dieu et la patience dans ce milieu pharisien. Et ensuite, eh bien, la femme courbée. Alors, ça me permet de vous dire, mesdames, que souvent j'entends des femmes dire « Mais nous, dans les femmes, elles sont toujours oubliées dans l'Église, dans l'Évangile et tout. » Mais pas du tout. Parce que si vous reprenez tous les textes où interviennent des femmes dans l'Évangile, eh bien Jésus, il a remis la femme dans sa dignité à tous les niveaux. Et vous avez un livre de Georgette Blaquière qui s'appelle « La grâce d'être femme ». Eh bien, c'était une femme qui était en même temps responsable des fraternités Charles de Foucault et qui était professeur de grec à l'université et en lycée après. Et elle montre comment chaque fois que la femme, vous aviez la femme qui perd son sang, vous avez la femme courbée, vous avez la femme qui vient demander la guérison de sa petite fille, etc. Jésus remet la femme debout. Et en même temps, il a choisi ses apôtres hommes parce que il leur demandait une autre grâce qui est liée à la masculinité. Et par contre, les femmes, entre parenthèses, c'est elles qui ont été témoins de la résurrection dans Saint Jean. La Vierge Marie a vraiment une mission. Et le Père Marie-Eugène, et ça, moi, je pense à nous tous, et il disait, moi je souhaite que vous, la Vierge Marie, Notre-Dame de vie, puisse vous faire partager à tous sa fécondité de grâce. Sa fécondité de grâce. Et là, je pense qu'on est en présence de quelque chose de très très fort. La Vierge Marie, elle a enfanté le Christ, elle nous enfante tous. Et en plus, elle nous donne de participer à sa fécondité de grâce. Et il disait également, je surveille l'heure, il disait également que je souhaite que chacun de vous puisse dire le plus rapidement possible, l'Esprit Saint est mon ami. C'est-à-dire qu'on vive dans une intimité avec l'Esprit Saint. Voilà, j'ai fini avec le deuxième bijou. Alors, on va commencer le troisième bijou, même si on va pas jusqu'au bout. Parce que dans 5 minutes ou dans 7 minutes, je m'arrête et je m'arrêterai. Alors, je ne vais pas m'arrêter de nouveau sur la première perle, parce que dans ce deuxième pendentif, il est accroché directement à la perle centrale du collier. Et il reprend comme pour nous dire, attention, ça c'est le centre de tout. Pourquoi ? Parce que c'est l'écoute de la parole, on s'approche jusqu'à toucher Jésus pour l'écouter. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle nous met en contact avec lui et puis c'est la liturgie de la parole, et ensuite on est à table avec lui, c'est l'Eucharistie avec la convivialité de table. Et là, il y avait des pêcheurs, des publicains, des prostituées, et là, je me suis souvent demandé, mais pourquoi les prostituées, elles ont une place dans l'Évangile et une place importante? Et quand j'étais... D'abord, j'ai eu la grâce, comme petit frère de Foucault, d'aller manger une fois dans un hôtel de passe avec le cardinal Etchegaray. Parce que chaque année, il allait prendre un repas dans une maison de prostituées. Et il invitait toujours 2-3 religieux à venir avec lui pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et je me souviens très bien, le cardinal entrant dans la maison, il y avait 12 femmes, plus la mère Macrel, c'est là que j'ai appris que la chef, elle s'appelait la Macrel. Et le cardinal, il n'a pas arrêté de dire à ses femmes, « Eh, moi je viens vous dire que Jésus, il vous aime. Eh, oh, bien sûr, il sait que ce que vous faites, c'est pas beau, mais ça, vous le savez aussi, hein, alors je vais pas vous l'apprendre, mais je viens vous dire que vous êtes aimé de Jésus. » Et pendant 1h30, il a décliné les mêmes réalités sans arrêt d'une manière ou d'une autre, écoutant les unes, écoutant les autres, et puis finalement, tout le monde pleurait. C'était extraordinaire, ça, moi, je... Et puis après, en allant à la Cato de Toulouse, pendant 2 ans, j'ai fait Carpentras-Toulouse toutes les semaines. Avec un peu d'humour, je disais que j'étais même aumônier de la SNCF. Et parce que dans le train, c'est fou le nombre de gens que j'ai, avec qui j'ai partagé des problèmes importants. Et de la gare de Toulouse, la gare Matabio, jusqu'à la Cato de Toulouse, je passais devant un hôtel de passe. Eh bien, je vous promets que quand on voit la tête de ces femmes, on comprend qu'elles nous précéderont dans le royaume, parce que elles réalisent que ce qu'elles font, c'est horrible. Et alors que nous, notre drame à nous, c'est qu'on pense qu'on est des gens bien. Et ça, c'est notre drame. Alors que ces femmes-là, elles savent bien qu'elles sont des pécheresses. Et qu'elles n'ont qu'une chose à faire, c'est faire appel à la miséricorde de Jésus. Mais vous avez la chanson de Jacques Brel sur les dames patronesses. On a ces pauvres et un point à l'envers et un point à l'endroit pour ça machin, pour ça un truc. Quelle horreur! Voilà, alors, je laisse la première perle et je voudrais dire un mot de la deuxième et de la troisième, qui sont bâties de la même manière. Jésus leur dit cette parabole. Quel homme parmi vous, ayant 100 moutons, si l'un d'entre eux s'est égaré, ne laisserait les 99 autres au pacage et ne s'en irait vers l'égaré jusqu'à ce qu'il le retrouve. Quand il l'a trouvé, il se réjouit et il le soulève sur ses épaules. Il va dans sa maison, appelle amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé mon bélier égaré. Je vous le dis à vous, il y aura même joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti et pour 99 justes qui n'ont pas à chercher le repentir. » Et là, ce qui... D'abord, c'est tout à fait réaliste, je vous l'avais dit hier, mais un troupeau de brebis, on ne va pas mettre une brebis mère sur nos épaules. Sinon, ce sera impossible de marcher. En fait, le berger, ben, il avait les brebis, et puis il avait les agnels et les béliers d'un an. Et eux, ben, ils sont dans le troupeau. Et puis les béliers, ben, ils commencent à chercher un peu les agnels. Et s'ils voient un troupeau qui traîne auprès du leur, ils s'en vont et ils commencent à faire n'importe quoi. Et puis le troupeau, il est parti. Et du coup, il est perdu. Alors, qu'est-ce que fait le berger? Eh bien, il part à la... Il laisse les 99. Alors, est-ce que au package, est-ce qu'il y avait d'autres bergers? Ça, on ne le sait pas. Mais il est prêt à tout laisser pour aller chercher le jeune bélier égaré. Et là, un jeune bélier, il peut encore le mettre sur ses épaules. Et il le ramène. Voilà. Mais c'est vraiment la manière dont le berger, qui est Jésus, eh bien, il est prêt à laisser toutes les brebis au pacage pour aller chercher celle qui est perdue. Et quand il l'a trouvée, eh bien, c'est la joie. Et je termine par la troisième perle, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, moi je pense, on va voir, peut-être il y en a qui l'ont vu, c'est la pièce perdue. Et ça, la pièce perdue, je vais vous lire le texte, et puis après vous me direz si vous avez compris qu'est-ce que représentait cette pièce. Ou bien le jeune bélier, c'est aussi toutes les tentations qu'ont les hommes de s'en aller à gauche, à droite, loin de Jésus, de s'écarter de Jésus. Ou bien quelle femme parmi vous, ayant 10 pièces, si l'une d'entre elles est perdue, n'allumerait une lampe et ne balayerait la maison et ne la chercherait avec soin jusqu'à la retrouver? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma pièce perdue. » Je vous le dis à vous, il y aura même joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors qu'est-ce que c'est que cette pièce perdue? Je vous écoute, mesdames et messieurs, et le clergé aussi. Je n'humilierai pas le clergé. Comment? Non, 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 non. Non, 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 c'est beau, mais c'est pas ça. Non. Alors, je vais vous le dire, parce que sinon on sera en retard à la messe. En réalité, cette femme, elle est le symbole de l'Église. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que elle a un voile nuptial. Et sur les voiles nuptiales à l'époque, on cousait 10 pièces. Il y avait 10 pièces de cousu sur le voile nuptial. Et quand elle apprêtait son voile nuptial, avec ses doigts, elle vérifiait que les pièces étaient bien là. Et là, il en manque une. Et c'est la catastrophe. Alors, est-ce qu'elle allait à des noces, à ses propres noces? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est vraiment une des 10 pièces qui représentait l'argent qu'elle apportait dans sa corbeille de noces. Et il y en a une qui manque. Elle est tombée. Et ça, c'est aussi le symbole de tous ceux qui, dans l'Église, eh bien, au lieu de vivre le mystère nuptial, ils sont tombés dans la poussière et ils vivent n'importe quoi. Donc c'est tout autre chose, là. On est au cœur même de l'histoire de l'Église, des noces du Christ avec l'Église, et que l'Église s'aperçoit qu'il lui manque une pièce. C'est le chrétien qui est tombé dans la poussière et qui s'est séparé et qui vit n'importe quoi dans un coin caché par terre. Et là, quand elle l'a retrouvé, eh bien c'est la joie parce que, et je reprends le texte, le pécheur qui se repent, c'est-à-dire un chrétien qui retrouve sa place sur le voile nuptial de l'Église. C'est autrement plus beau, ça, non ? Que 10 pièces, ben, si vous avez 10 euros en pièces et vous en perdez une, vous n'allez pas en faire un malheur. Mais si c'est sur la couronne nuptiale, ben c'est horrible, il faut la retrouver. Alors on va aller à l'Eucharistie maintenant ensemble.
Alors j'ai pas fini.
Je rappelle que l'Eucharistie est à la chapelle de la Visitation.